Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elle s'attable ».
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable, podcast du magazine Elle à table. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le 9e arrondissement de Paris, pas très loin de la gare du Nord. C'est une grande vitrine derrière laquelle se cache un repère étonnant. Il y a des fleurs fanées et non séchées, la nuance est importante. Il y a de la vaisselle, il y a un tour de potier, il y a des paquets de terre prêts à être modelés. Il y a une famille juste derrière et ce lieu hybride est celui d'une jeune femme, Marion Gros, potière céramiste, qui met de la beauté sur les tables, celle des chefs et les nôtres. C'est un métier un peu connexe à celui de la gastronomie, à celui des grands chefs, mais elle contribue à changer le monde elle aussi. Bonjour Marion.
Bonjour Danielle.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Merci à toi. On peut dire
on
toi.
On peut se tutoyer parce que voilà, il faut dire qu'on se connaît. La vie n'a fait qu'on s'est croisés de nombreuses fois, dans le cadre du travail notamment.
Elle s'attable.
Marion, je voulais d'abord savoir quelle place la table, au sens large, occupe dans ta vie.
Elle est immense. J'ai pas dit énorme, mais elle est très importante. Quand tu dis ça, moi, immédiatement, je pense à l'alimentation, à comment je me nourris. Et en fait, immédiatement, je bascule sur le corps. Donc ça, pour moi, c'est un sujet extrêmement important, sensoriel, dans lequel j'ai navigué toute ma vie, quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix, mais c'est un vrai exercice du quotidien. J'aime préparer à manger, j'aime faire à manger pour mes enfants, j'aime qu'ils mangent bien. Moi, je fais de la vaisselle, j'ai une sœur qui a monté des épiceries et mon autre sœur qui fait des recettes de cuisine. Bon, on a la question de la nourriture et donc de la table, elle est hyper importante. Donc ça, c'est le premier, c'est ma première réponse spontanée. Ensuite, je trouve que c'est vraiment le poumon d'une maison, les moments du repas. C'est aussi la structure de l'éducation, en fait. Il me semble que j'ai des enfants en bas âge et donc je cherche des repères à leur proposer et dans... J'aime bien l'idée qu'on donne un cadre, un quadrillage, et dans lequel, au milieu des espaces, il y a de la liberté, mais il y a...
Une structure.
Une structure nécessaire. Et le repas en est une. On mange à table, ensemble. Non, c'est pas vrai. Le soir, on mange après, mais parce que voilà, on est
parce
avec
qu'ils sont jeunes encore.
Ils sont jeunes et que nous, on a envie de manger tranquille. Et que c'est justement parce que le repas, il est un peu... on y tient trop pour s'en priver. Trois enfants à table, pour ceux qui savent, c'est...
Alors, je précise que les enfants sont petits,
oui,
puisqu'ils ont entre...
Ils ont entre 1 et 7.
Est-ce que c'est qu'une telle importance vient notamment de ton enfance? J'ai lu que
ça avait été central dans ta vie enfant, et notamment dans la Drôme, dont vous êtes originaire, et où tu passais tes vacances, et que la table était vraiment le pôle autour duquel la vie tournait.
Absolument. Je suis originaire de Lille, je suis une vraie fille du Nord. Et donc, en effet, on va dans la Drôme depuis toujours, dans un petit village de Poitiers d'ailleurs. C'est chargé de plein d'entrées différentes. Et ma mère, qui n'est plus là aujourd'hui, mais nous a élevés, et on est 4 filles, tout passait par les repas. Elle préparait, mais vraiment en dernière minute. On a grandi dans quelque chose de très facile sur les repas et les copains. Et la famille, et on est nombreux de toute façon dès le départ, donc même quand il n'y a personne, on était déjà nombreux. Et tout était régi par ces repas, avec les légumes du soleil, avec ça passait déjà par vraiment les produits de saison. C'était les tomates, c'était les aubergines, c'était tout ça. Enfin, ça c'est vraiment des marquages de mémoire, de table, les grands plats, même la taille des plats, la table des tables, tout ça, c'est des souvenirs. Je suis très admirative parce que moi, au-delà de 6, je trouve que c'est vraiment très dur, quoi. Voilà. Mais j'aime bien cuisiner pour 4-5. Au-delà, mes sœurs sont très fortes. C'est elles qui prennent les commandes quand on est en famille. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai plutôt choisi la vaisselle.
Alors, merci pour cette transition, Marion Gros. Le chemin vers ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une céramiste très réputée à Paris et qui travaille avec de très nombreux chefs, n'a pas forcément été un chemin immédiat. J'ai vu que tu avais fait un bac option cinéma, ensuite que tu avais fait une école de mode, ouais. S-Mode, grâce à laquelle
j'ai
tu sais coudre.
J'ai passé quelques mois en Afrique, parce que après le bac, je suis partie au Cameroun.
Alors pourquoi le Cameroun ?
Je crois que l'Afrique noire vraiment était quelque chose qui m'attirait, et je le sais aujourd'hui d'autant plus, j'ai vraiment un truc de qui me va, que ce soit la musique, que ce soit la danse, même la nourriture, je sais pas, quelque chose qui résonne en moi très fort.
De retour en France, tu fais des études de mode ?
Ouais, je fais Dame Pipi à Lutrière. Premier. Non, c'est quand même un premier pas dans le.
Vers la gastronomie,
alors,
oui.
Il faut
oui.
raconter que Lutrière, c'était un des restos gastronomiques le plus connu à Lille, qui était vraiment tenu par une maison familiale. C'était une institution. Donc, Dame Pipi à Lutrière. Et ensuite, je pars vivre à Paris et je fais des études. Je fais une prépa d'art appliqué. Ensuite, une école de mode, S-Mode. En revanche, je ne suis pas quelqu'un de la tendance. J'aime la mode pour le vêtement, en fait. Le vêtement, le corps. Voilà, ce lien-là. Il est le lien de la nourriture et de la vaisselle. Hein. C'est vraiment comment tout nous traverse.
Tu enchaînes par un stage OL.
Oui.
Côté déco.
Ouais, parce que grâce à ma prof de stylisme qui avait été assistante de Mireille Asséna
et qui alors nous rendons ici hommage à Mireille Asséna qui pendant 40 ans a piloté la déco OL avec un talent absolu
et qui reste une maman pour nous toutes quand même. Il y a vraiment eu ce lien qui était hyper maternant, c'est marrant. Donc moi j'étais dans l'équipe Charlotte Huguet avec qui on est restées très copines et donc on était les assistantes de la déco à l'époque de Saint-Ouen, la vieille
oui, il y a une
équipe.
Quinzaine d'années.
Je suis jeune et je ne sais pas bien ce que je vais faire. Je cherche là où ça va être bien la vie, quoi.
Et avec une notion importante de créativité, d'expression
oui,
créative.
Ça, donc ça me plaît, mais en même temps, je trouve ça très dur, la presse. Et en même temps, je vois que j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à m'imposer. Il y a plein de choses qui me conviennent, mais je ne suis pas du tout en zone de confort, quoi. Je sens que c'est pas... Il faut continuer la route, en fait. Hein. J'apprends énormément de choses, hein, mais...
Et mais donc, il y a la continuer. Rencontre, à ce moment-là, avec la céramique.
Alors, il y a beaucoup les fiches cuisine avec Sergio Da Silva, où il y a toute la cabine avec le vestiaire de vaisselle. Je vais rencontrer Brigitte de Basler, je vais rencontrer Claire de la Vallée, Christiane Perrochon, enfin, vraiment, qui sont les... À l'époque,
les grands
elles
noms.
Sont des ovnis, quoi. Oui. Et puis, je vois ces femmes aussi que je trouve incroyables. Elles ont un ancrage. Il y a Louise Elio aussi. Enfin, c'était... À l'époque, elles sont extrêmement
précurseurs
et puis singulières. Et je trouve que ces femmes portent en elles un art de vivre qui, moi, mais je m'engouffre. Je me dis, mais waouh, je veux cette vie-là.
Et alors, comment est-ce qu'on devient céramiste ?
Comment on devient ? On bricole. Au même moment, je perds un gros client. Enfin, parce que je faisais en dehors de la presse, évidemment, il y a des clients privés. Et puis. Il y a Daniel Rosenstock pour qui je bosse au Marie-Claire Maison qui me dit tu sais t'es en train de se monter un truc dingue merci on sait pas encore ce que c'est mais les Cohen enfin tu vas voir c'est génial si tu cherches du boulot va voir là-bas ça va être un truc incroyable
Je rentre complètement par la petite porte, puisqu'à ce moment-là, finalement, j'accepte un poste de vendeuse. Ce qui aurait été un peu compliqué, parce que finalement, je me retrouve à servir des gens avec qui je bossais dans la presse, parce que oui, c'est un événement, merci quand ça ouvre. Mais ça me servira à, au bout de quelques mois, rompre le contrat, avoir le chômage et faire cette formation qui sera financée pour passer un CAP. C'est il y a 12 ans. Il y a 12 ans, il n'y avait pas de CAP à Paris, donc il fallait se former et puis le passer en candidat libre à Aubagne, dans le sud. Je me forme donc avec un vieux monsieur qui prend sa retraite, Augusto Tozzola, qui avait 84 ans, donc il doit en avoir 96 aujourd'hui. C'est la poésie à l'état pur. Quand même bien militaire, hein,
une poésie très encadrée.
Oui, et puis il a été chef d'orchestre et pianiste. Il est arrivé d'Italie très jeune. Il avait travaillé à l'usine à Faenza à partir de 13 ans. Donc sa croissance a été faite sur le travail de la terre. Il a des mains, je ne vous raconte pas, par rapport à son corps. Enfin, il arrive quand même en France pour la musique. Et puis finalement, il va tourner pour beaucoup de designers, etc. Et puis ensuite, il va former des dizaines de personnes.
Donc, tu apprends avec donc Augusto Tozzola, qui est un personnage, et ça correspond...
On n'apprend que le tour, on tourne 7 heures par jour, on ne cuit pas. Il n'y a pas de four, de toute façon.
École d'humilité.
Ouais, grave. Donc, avec Augusto, je passe le CAP. Donc, on tourne 7 heures par jour, on ne fait rien d'autre. Toutes les formes du CAP, on est vraiment dans cette discipline quotidienne. Et après ça, je vais partir en Bourgogne, chez cette potière, Dauphine. Bon voilà, je ne fais pas tous les détails, mais c'est quand même un peu à la dure.
La terre, on peut en faire quelque chose. On peut en faire des poteries, des céramiques. C'est très à la mode, les céramiques.
La vaisselle s'est imposée aujourd'hui comme un véritable élément de décoration. Les tables françaises mélangent les produits de l'artisanat, des manufactures traditionnelles et du design.
Comment on va s'y prendre? On va travailler une céramique qui s'appelle le grès.
Ce que j'aime le plus, c'est tourner. Partir d'une boule de terre et puis se dire que juste avec de l'eau, vos mains, la force de l'inertie, et ben on va transformer cette matière et en faire un objet usuel, voire artistique.
Les codes s'estompent, la céramique se renouvelle. Les mots d'ordre sont raffinement et accessibilité. Couleurs zen ou pop, formes innovantes, appels à de grandes signatures de l'art et du design, la vaisselle joue de tous les effets pour varier les propositions et les styles.
La matière, elle est le reflet de ton état du moment. Pour la terre, c'est très juste, les jours où t'es pas bien, ça marche jamais.
Mais c'est bête, mais un jour, vous essayez de mettre 3 fromages sur une assiette, vous trouvez que c'est super moche, bah, du coup, vous faites un plateau de fromage la semaine d'après.
Voilà, je pense qu'on est pas mal.
Ah, c'est trop beau. Je pourrais pas faire aussi bien.
Mais on va essayer.
Je vais faire une boule, en fait.
Elle s'attable.
Aujourd'hui, tu produis donc à Paris, tu produis des choses assez différentes. Alors, il y a des lignes de vaisselle que tu développes beaucoup pour des chefs.
Oui.
Alors, parmi lesquelles, on peut citer Linda Rose, il y a des choses qui sont allées chez Cyril Lignac, beaucoup avec Greg Marchand, oui, aussi, de Frenchy. Oui. Comment se passe le travail avec un chef? Ils viennent te voir pour ton esthétique, mais j'imagine qu'il y a quand même à chaque fois, Marion, une création particulière.
Ah oui, et une intention particulière et une association particulière. En fait, on se parle beaucoup, on se sent. C'est la clientèle, mais...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Idéal, c'est génial de bosser avec les chefs. Mais d'un petit resto, il n'y a jamais de petit resto. Mais j'espère que Laurent et Angela de Bush qui font un travail génial. Et je suis très contente d'ailleurs que sur des cartes où on mange pour moins de 50 euros, il y ait ma vaisselle. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, il y a 6 ans. Il y a un effort qui est fait général des choses avec lesquelles on travaille.
Donc j'ai autant de plaisir et j'ai le travail est le même de travailler pour un restaurant par exemple
étoilé,
comme Bouche
multi-étoilé.
Que pour Hélène où il y a multi-étoilé, que ce soit à Londres, à Aix ou à Paris. Et à chaque fois, en fait, on perd pas de temps hein, parce que c'est des gens qui ont pas de temps. Et puis moi, j'ai un métier aussi qui est très chronophage. Très vite, on sent les choses. J'aime aussi ça. On a quelque chose en commun.
Toi qui observes, j'imagine, de relativement près les évolutions autour de l'art de la table depuis une vingtaine d'années maintenant, d'abord comme styliste et puis ensuite comme céramiste, potière plutôt même. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un vrai réinvestissement de l'art de la table? Et notamment avec des arts de la table qui ne sont pas forcément des arts de la table aussi formatés qu'ils l'étaient autrefois, où c'était des produits qui sortaient plutôt de grandes manufactures, notamment de la région de Limoges, etc.
Oui, mon analyse sur cette question-là, elle est, en fait, ce sont les deux excès. On sort de 30 ans, initiés par Habitat, de grandes diffs de la vaisselle. Qui n'avait, en fait, il y a que ces 30 ans-là. Parce qu'on dit, ah oui, retour de la céramique. C'est pas un retour de la céramique. C'est juste qu'on sort de cette période. C'est pas que de la fast fashion, mais de l'industrialisation, d'une céramique sympa, qu'on change, d'une vaisselle, qu'on va se changer comme on change de fringues. On a mis de la légèreté dans la vaisselle. Aujourd'hui, on sort de ça. Donc, on revient au plus artisanal, au plus fait à la main. Les pics s'attirent, c'est-à-dire que on a eu de la grosse industrialisation. Donc on
la standardisation totale.
Voilà, la standardisation. Et d'ailleurs, les manufactures tendent vers un esthétisme qui ressemble à de l'atelier. Donc, on voit bien que c'est tout le monde se joue un peu, s'observe. Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est normal, en fait, et qu'on revient juste au plaisir des objets de la maison.
En quoi la mise en scène de la table est-elle si importante ? Parce qu'on parle souvent de ce qu'on mange, mais on ne parle pas si souvent que cela de la manière dont on le met en scène. Or, la vaisselle est, un petit peu comme la scène de théâtre pour le spectacle vivant, le tableau sur lequel s'expriment finalement les chefs.
Alors ça change parce qu'on commence à en parler pas mal et puis ça commence à arriver dans la maison. Mais pour les chefs, c'est primordial. C'est comme un fournisseur de truffes, quoi. C'est ils ont la même exigence. On va pas du tout faire la même cuisine si on a envie de travailler avec Bernardo qu'avec moi. Moi, je crois que c'est un immense terrain de jeu auquel il serait dommage de refuser, de s'en priver. C'est la joie du choix, que tout est possible, qu'on peut raconter plein d'histoires et que il se passe pas du tout la même chose avec. On voit bien d'ailleurs, on ne fait pas de dressage, enfin on fait rarement un dressage de restaurant à la maison avec un tout petit truc au centre et puis et dans les restaurants où ils servent la soupe comme à la maison, c'est aussi une histoire racontée. Tout ça, ben c'est génial quoi. C'est la palette du peintre.
Et ça rejoint l'expérience que tu avais enfant dans ta famille où la table était mise en scène.
Oui. Avec ce jeu-là, de est-ce qu'on met ces fleurs-là, est-ce que les nappes, le placard de nappes chez ma mère, je veux dire, c'est fou. C'est des associations de couleurs, c'est, je veux dire, si on cumule les couverts, les verres, la nappe, les fleurs, les vases, et on peut même aller jusqu'à des décos de. Voilà, aujourd'hui, il y a une grosse tendance aussi sur les décos de table. Je pense à ma copine Alice Roca d'Alice in Food ou Héloïse de Miss Maggie. Vraiment, dans les tips à pas cher pour Noël, on va dans le jardin, on coupe plein de branches, on les met au milieu de la table, 3 citrouilles de bougies.
Et c'est réglé.
Et c'est parti. Et tout ça est tout à fait Instagrammable.
C'est même hautement Instagrammable.
Elle sa table.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu as passé une étape. Plutôt que de ne faire uniquement des pièces que tu fabriquais toi-même, tu as développé une collection avec la manufacture de Digoin, avec des très jolies assiettes, j'en ai à la maison. Honnêtement, je les recommande parce qu'elles sont superbes, dans lesquelles on retrouve à la fois cet aspect un peu manuel, mais qui permettent une accessibilité pour le plus grand nombre.
Surtout, elles permettent d'être là. Parce que elles sont finalement pas moins chères. On aurait aimé, on n'a pas pu. Donc on a cherché, il y avait différentes façons de produire plus. Parce que en plus on communiquait beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup d'échanges avec les particuliers. Et en fait on n'avait pas de choses à leur vendre puisque moi mon temps est rempli pour le travail des chefs. Et les chefs, ils ont aussi besoin de plus que ce que je peux produire. Donc, c'était vraiment comment on répond à cette question. Et en cheminant vers ça, on a même trouvé des réponses qui sont hyper vertueuses et hyper satisfaisantes sur cette manufacture de Digoin, qui est complètement artisanale. C'est une manufacture, mais tout est fait à la main. Donc, c'est une autre technique, ce sont des moules. On a fait des moules des 5 formes principales de mon travail. Ces moules-là sont coulés sur des bancs de coulage par des artisans. Et tout ça reste à la main. Je ne vous raconte pas le nombre de défectueux qu'il y a. Et nous, notre cahier des charges extrêmement difficile à remplir pour eux, pour que ces assiettes ressemblent à ce qu'elles ressemblent, c'est-à-dire dans la lignée de mon travail d'atelier. J'ai eu une exigence qui était très, très... Alors, j'allais dire pénible pour eux. Aujourd'hui, je pense que ça leur plaît, ça les amuse. Mais j'ai un peu demandé le contraire de tout ce qu'on leur a demandé. C'est que moi, je veux les doigts, je veux le geste. Je veux qu'on émaille avec la trace du geste. Donc, les coulures racontent l'histoire du geste. Tout ça est maintenu dans une manufacture. Donc, ça, on leur demande la lune et ils le donnent. Et donc, tout ça, en effet, ne passe pas à des prix de fabrication de masse qui seraient beaucoup plus systématisés. Mais l'avantage, c'est qu'on a des pièces, ce qui n'était pas le cas avant où on était on n'avait pas de stock, quoi.
Et ça permet aussi de pérenniser, d'accompagner des savoir-faire classiques français.
Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vertueux, c'est que c'est hyper intéressant de bosser avec Digoin, qui était une manufacture qui tournait à, je sais plus, quasiment 200 ouvriers pendant les années 60. L'arrivée du plastique les a mis par terre. Parce qu'ils faisaient tous les contenants de terrine, ils avaient vraiment... c'était des contenants d'Igouin, des poteries en grès, voilà, c'est du grès.
Quand tu réfléchis à l'avenir, Marion, comment l'imagines-tu ?
J'y pense pas du tout. Je suis un peu la tête dans le guidon. Je sais pas comment dire, je suis très jeune, j'ai 41 ans, mais ce rythme physique, je me dis le jour où mon corps va voilà, un problème de dos, un truc. Enfin, je suis quand même très, très en exercice physique au quotidien. Donc ça, il faut, dans ma tête, je me dis, bon, ça, il faut l'anticiper parce que moi, je vais vouloir travailler au-delà de la limite. Je pense que même dans 10 ans, je vais être un peu plus fatiguée, tout ça. Enfin, bon, c'est bizarre de penser à ça, mais tu vois, mes inquiétudes, elles sont plus ça. Pour ça, il va falloir un petit peu être plus prudente. Et donc ça, j'y réfléchis, je n'ai pas encore les solutions.
Alors, il y a des projets aussi autres, parce que par exemple, chez Frenchy, tu as fait un décor mural pour le restaurant.
Oui, alors ça, génial, c'est trop bien, ça, j'adore. Donc ça, Frenchy, c'était le premier que j'ai fait dessiner par Dorothée Mélixon, donc c'était le Frenchy Pigalle. Dorothée a dessiné la fresque, et moi, je l'ai réalisé avec mes émaux et avec, voilà, traversé par mon travail. Et puis, ça a été le pied à l'étrier de plusieurs autres ouvrages de sol ou de mur. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs fois avec Jules Ménie-Deschamps, qui est un architecte d'intérieur, qui m'a fait faire un sol pour Merci, pour l'appartement Merci, la seconde résidence. Elle se visite, pour ceux que ça intéresse, qui est un appartement dans lequel il a fait travailler plein d'artistes et d'artisans. Chaque coin de l'appartement est fait par quelqu'un, avec une démarche artistique ou de spécialiste. C'est vraiment un endroit super. Et puis, ça continue. Je suis encore en train de faire un sol, toujours avec Jules. On travaille bien ensemble parce qu'il y a les bons équilibres. Il y a eu un autre ouvrage mural, mais c'est chez les particuliers, donc ce n'est pas encore paru. Et là, je suis encore en train d'en faire d'autres pour une marque de vêtements. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enchante.
D'où vient l'inspiration ? Qui est toujours la grande question qu'on pose aux créatifs.
C'est une grande question. Je suis fascinée par le corps, aussi parce que je travaille avec, parce que je vois mes enfants grandir, parce que je trouve que c'est quelque chose... voilà, on est tous là, tous ensemble, on se regarde, on parle de la nature, mais déjà, nous, regardons-nous, nos corps, tout ce que ça raconte, tout ce que ça dit, la peau,
la sensorialité au sens large.
Ouais, puis même la magie, quoi. Pour le coup, c'est un terrain d'observation formidable, émouvant. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Faut aller bien. Moi, je pense qu'il faut... La meilleure quête, c'est de trouver la façon d'être bien dans sa tête, dans son corps. Et puis après, ça fleurit tout seul, quoi. C'est comme la végétation. Il ne faut pas se donner des grandes exigences. Enfin, elle est quand même pas mal, celle d'aller bien. Hein, mais... Moi, j'y arrive et je trouve ça ouf. Et je peux pleurer de vibrations, de dire « Oh là là, il faut que ça dure, ça va durer, ça va durer, ça va durer. » Mais j'ai la chance et je le vois parce qu'autour de moi, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais je vais très bien dans ma tête.
Alors, on pose la question quasiment dans tous les épisodes de ce podcast, Marion. Est-ce que tu penses que les femmes ont le pouvoir de changer le monde, notamment à travers les assiettes, mais pas uniquement ?
Non, bah là, le monde, je sais pas, c'est l'apocalypse, quoi. Donc, va falloir bien s'occuper des gens qu'on aime. Et puis, prendre soin de notre petit cercle. Et puis, si chacun fait ça, on va y arriver. Ben, le passage aussi à une vie familiale, à la puissance incroyable du besoin des enfants envers nous. Quand il y a trois petits corps qui se jettent sur vous le soir à 18h30, enfin... On n'a plus le même regard sur la vie qu'il y a 10 ans. Tout est basculé. Mais pour ceux qui ne sont pas à cette période-là de la vie, tout est autrement. Mais donc, ça c'est de la puissance. Là, j'observe la puissance de l'amour. Tout ça est très bateau. Mais donc, si j'ai de l'inquiétude sur le monde, bah, évidemment, c'est pour eux. Mais non, je ne crois pas pouvoir le changer. En revanche, je vais les élever pour leur donner le plus de possibilités pour le traverser. Mais je passais malheureusement, mais ma puissance ne va pas vraiment au-delà d'eux et je leur souhaite ensuite que ça diffuse.
Merci infiniment Marion.
Merci à toi.
Pour ce très joli moment passé ensemble. C'est un épisode comme tous les autres à écouter évidemment, à relayer, à liker, à commenter. Vous pouvez même mettre des étoiles, on n'est pas très loin.
Des étoiles.
Voilà, on n'est pas très loin de l'univers de la cuisine. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre épisode du podcast Elle s'attable.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.